Radio Foot International,
Eric Mamrut.
Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Foot International, l'antépénultième de la saison avant les vacances, vendredi soir. Madame Annie a d'ailleurs déjà fait ses valises, on lui souhaite un bon repos, mais les autres tauliers de l'émission sont là pour garder la boutique. À commencer par la tête pensante de Radio Foot, j'ai nommé David Finzel et ses deux paires de lunettes accrochées autour du cou. Et Maestro Salerno, le maté toujours à la main, il assure toujours brillamment, comme toujours, la mise en onde derrière ses consoles. Au niveau du casting du plateau, il est encore 5 étoiles. Avec tout d'abord notre ex-capitaine du Sili national guinéen, un éléphant désormais au repos et avec de belles lunettes de soleil, j'ai nommé Monsieur Ibrahima Traoré. Bonjour Ibrahima.
Bonjour.
Le Fennec de Radio Foot est également présent.
Bonjour Eric.
Nabil Djellit, bonjour. Idée et analyse toujours riche et longue malgré sa chevelure bouclée raccourcie hier.
Eh ouais, mais je suis fier de mes origines.
Mais ça vous voit très bien.
Les boucles, c'est important.
Ouais. Ses analyses volent haut, comme un aigle de Carthage qu'il aurait pu être, Monsieur Afrique du site Foot 365. Patrick Juillard, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous.
Alors, avec vous, nous allons évoquer le retour de Romelu Lukaku à l'Inter de Milan, un an seulement après son départ du club Nerazzurri pour Chelsea. L'Italie qui attend peut-être également Paul Pogba, ou pourquoi pas Cristiano Ronaldo. Matteo Cioffi sur place nous dira tout, hein, Cristiano Ronaldo, dont on se demande où son avenir devrait-il se dessiner. Doit-il vraiment quitter Manchester United après son année mitigée, ou alors partir, mais où, dans quel pays, dans quelle équipe? CR7 est-il facile à intégrer dans un effectif? Nous en débattrons. Lui a choisi de quitter l'Europe et le Tottenham d'Angleterre. Il s'agit de Gareth Bale, direction Los Angeles pour le Gallois de bientôt 33 ans. Est-ce un bon choix ou un gâchis pour l'attaquant? Cette arrivée en MLS ainsi que celle de Lorenzo Insigne et de Giorgio Chiellini prouvent-elles que le championnat nord-américain est en train de changer de dimension, de statut? La question sera posée. D'autres s'exilent au Moyen-Orient, à l'image de Rudy Garcia, l'ancien coach de Lille, de la Roma et de Lyon. Il vient de s'engager avec le club saoudien d'Al Nassr avec un contrat en or massif. À la clé, un départ pour l'argent, pour un vrai défi sportif ou par défaut, nous tenterons de comprendre les raisons de cet exil exotique. Un Radio Foot vraiment international, donc aujourd'hui on part tout d'abord en Italie.
On vient à la maison, il y a le printemps qui chante.
Ma la firma di Romelu Lukaku.
On vient à la maison, tous les oiseaux.
Et au second poteau, il y a Lukaku qui ne peut pas se faire du passif.
Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur.
Quest'anno, est stato un bel anno per noi perché.
Cette année a été une grande année pour nous. On a beaucoup travaillé pour gagner ce Scudetto. Je suis fier de jouer pour Inter. Aujourd'hui, je ne voulais pas pleurer, mais l'émotion était trop forte.
Il revient à la maison, Romelu, un an à peine après avoir été transféré à prix d'or à Chelsea. Romelu Lukaku va retrouver le club Nerazzurri, avec lequel il avait été sacré champion d'Italie en 2021. L'attaquant belge a passé sa visite médicale. Aujourd'hui, le contrat ne devrait pas tarder à être signé. Le retour de Big Rom, comme il est surnommé, avec quel accueil? On a eu une petite idée déjà un petit peu ce matin à son arrivée à l'aéroport. Il faut dire qu'il était parti l'an passé un petit peu dans la controverse. Eh bien, on va tout demander à Monsieur Italie de Radio Foot. Signore Calcio, Matteo Cioffi, buongiorno.
Bonjour, bonjour Eric.
Alors, est-ce que c'est toujours l'idole Romelu Lukaku au moment où il revient en Italie?
Oui, il faut dire que ce matin, lorsqu'il a débarqué, il y avait personne, mais il y avait une raison, c'était 7h du mat, donc je crois qu'il y avait beaucoup de gens étaient encore au lit à ce moment-là. Donc il n'y avait même pas beaucoup de journalistes, car en réalité, on attendait Romelu Lukaku hier soir, comme avait été annoncé par les directeurs sportifs de l'Inter, Giuseppe Marotta. Mais non, donc à la fin, il est arrivé à l'aéroport de Linate à 7h du matin. Il a ensuite passé sa visite médicale dans le siège milanais du CONI. CONI, c'est le Comité Olympique National. Il a signé son contrat. C'est un contrat en prêt payant de 8 millions d'euros hors bonus. Quoi dire, les supporters...
À propos de ce montant, effectivement, payé par l'Inter... Quelle sacrée opération financière donc pour le club italien. Romelu Lukaku avait été vendu quelques 112, 115 millions d'euros à Chelsea l'an passé, qu'il récupère donc en prêt avec cette indemnité. C'est un pactole pour l'Inter, Matteo.
Ben, tout à fait, et surtout vu l'état des lieux des caisses financières du club milanais, c'est de l'oxygène pur qui est en train d'arriver dans le club. Donc ça fait vraiment du bien. Voilà.
Il était parti l'an dernier à cause de ça justement, ou c'était un départ volontaire ou pas vraiment l'an passé?
Oui, il était parti à cause de ça, car beaucoup de tifosi, à mon avis, se sont trompés sur Romelu Lukaku, parce qu'ils ont commencé à dire c'est un traître, ils s'enfuient, c'est la fuite, blabli et blabla, mais c'était pas comme ça. L'Inter avait reçu une offre de 115 millions d'euros de la part de Chelsea et ils ont normalement accepté. Mais c'était vraiment très normal de le faire. Donc voilà pour ça, il y a aussi cette idée un peu...
Justement, cet accueil des milliers l'année, alors justement, il est toujours un petit peu conditionné par ce départ de l'an passé ou pas?
Alors, il faut dire que les ultras de l'Inter ont choisi de pas aller l'applaudir cet après-midi. Ils ont dit on lui pardonne pas ce qui s'est passé l'année passée. On verra qu'est-ce qu'il fera sur le terrain. S'il sera le grand joueur qu'on a pu admirer il y a deux ans, on sera les premiers à fêter avec lui. Donc on l'attend. Mais il y avait quand même une centaine de supporters de l'Inter aujourd'hui à Milan pour Ils étaient vraiment très très contents de voir Lukaku. Mais le plus content de tous, c'était lui, hein, c'était Romelu Lukaku. Il avait un sourire incroyable aujourd'hui. C'est comme s'il était vraiment rentré à la maison après une petite fuite d'amour, comme on dit en Italie.
Patrick Juillet, on sent vraiment qu'il était limite parti à contre-cœur l'an passé.
Ouais, totalement. La greffe n'a absolument pas pris à Chelsea. Alors on a parlé d'une mauvaise entente avec Thomas Tuchel, qui n'en voulait pas ou qui ne... appréciez pas son profil. C'est pas la première fois qu'un grand avant-centre ne s'impose pas à Chelsea, qui a du mal, à part le contre-exemple Drogba, souvent à faire de la place à ce type d'attaquant. Maintenant, à l'Inter, ça ne peut que fonctionner. Ça a déjà fonctionné. Alors c'est vrai que c'était avec Antonio Conte, donc c'est plus, ça a changé depuis. C'est plus du tout le même type de plan de jeu, mais les bases sont là. Il maîtrise très bien ce championnat, il maîtrise bien les défenseurs de Serie A, c'est même une terreur pour ces défenseurs-là. Alors Perisic va partir, si je ne me trompe pas, vers Tottenham. Ça va changer un petit peu la donne.
On va parler de l'avenir.
Mais je pense que c'est un très bon choix. Et l'Inter était déjà proche du titre l'an passé sans Lukaku, donc il
deuxième,
ne peut qu'être plus fort avec lui cette saison.
Mais Ibrahima, est-ce qu'on peut parler véritablement d'échec total de Lukaku à Chelsea? En 44 matchs, il a marqué 15 buts. Alors certes, c'est la moitié que l'an passé avec l'Inter, mais est-ce que vraiment ça a été un ratage complet?
Bah oui, totalement, parce qu'en fait, les buts qu'il marque, c'est au début de saison, où il vient, il enchaîne, il marque beaucoup de buts, et après, en deuxième partie de saison, c'est en coupe. Il marque en coupe, il y a des statistiques, où il y a des matchs où Lukaku touche 7 ballons contre Crystal Palace. Mais je pense que de base, ce n'est pas que l'échec Lukaku, c'est aussi l'échec de Chelsea, parce qu'on sait que Thomas Tuchel, Lukaku n'est pas un joueur qui forcément rentre dans sa philosophie de jeu. Donc, de le prendre pour 115 millions, on ne peut pas en vouloir qu'à Romelu Lukaku, surtout pour ne pas l'utiliser sur ses qualités, sur ses forces.
Oui, la faute un peu au club, à Tuchel.
Oui, enfin, il y a aussi lui aussi sa part de responsabilité, parce qu'il y a aussi un grand attaquant, c'est un attaquant qui est aussi capable de faire évoluer un petit peu son logiciel. C'est comme Milik du côté de l'Olympique de Marseille, il ne correspond pas au logiciel, mais à un moment... Quand vous êtes dans un club, c'est aussi à vous de parfois modifier un petit peu votre jeu, chercher des solutions. Bon, clairement, de toute façon, il n'avait pas envie de partir. Il a maquillé la réalité en disant que oui, il partait parce qu'il avait envie de réussir en Première Ligue, puisqu'il avait déjà plus ou moins échoué du côté de Manchester United. Et il y a eu une mésentente qui a été claire, nette et précise avec Tuchel. Lui avait considéré qu'il n'avait pas été traité avec le statut et les égards qu'il méritait. Je crois que quand il est revenu de blessure, blessure, il l'a mis sur le banc ou quelque chose comme ça. Il l'a pas très bien vécu. Puis il y a eu cette interview également où il a dit que bon bah voilà, ça matchait pas forcément. Il a dit clairement.
Au milieu de saison. Ouais.
Voilà, il a dit clairement les choses. Moi je trouve que c'est un attaquant qui est absolument fantastique. On l'a vu à l'Euro, notamment avec la Belgique devenir presque avec Kevin De Bruyne. Voilà, la locomotive du football belge, il y a des statistiques qui sont absolument affolantes. Patrick parlait du système de jeu avec Conte, mais Mancini a juste un petit peu apporté une version un peu plus offensive, donc il va s'y retrouver. Et en plus, alors on va voir comment on va, et ça peut-être que Matteo va nous aider là-dessus, comment financièrement l'Inter va arriver à faire signer Dybala. Parce que si vous avez, nous ici en France, on parle d'un 4-3-3 avec Mbappé, Messi et Neymar peut-être en 10. Bon, le premier rideau, vous pouvez le déchirer rapidement parce qu'au niveau, on va dire, de l'impact physique de Messi et de Neymar, on peut avoir quelques suspicions. En revanche, si vous avez Dybala, Lukaku et Lautaro Martinez, en termes d'investissement et de pressing, c'est d'un autre niveau. Donc, moi, j'attends de voir s'ils vont faire Dybala pour avoir Dybala derrière Lautaro Martinez et Lukaku. Et je suis persuadé que si Lukaku signe et que Dybala signe, je ne dis pas qu'il n'y a pas de championnat, hein. Et Milan est revenu et tout. Mais pour moi, clairement, le grand favori de la saison, ça sera l'Inter de Milan.
Patrick, Romelu Lukaku a joué dans plusieurs clubs, hein, en Angleterre, West Bromwich, Albion, Everton, avant cela Anderlecht, Manchester United et donc Chelsea. Mais l'Inter de Milan, c'est vraiment là où il a éclaté. C'est un peu la maison, vraiment. C'est pour ça qu'il y revient, comme on entendait Claude François revient à la maison. C'est là où il se sent le mieux. Quoi.
Il avait tout à fait le profil pour réussir à l'Inter, parce que l'Inter, traditionnellement, presque dans son ADN, pour employer une expression qu'on emploie souvent ici, c'est un club qui aime bien les joueurs expérimentés, qui arrivent à maturité et qui peuvent exprimer pleinement leur qualité bien digérée, si on peut dire. C'est pas un club qui va faire grandir des jeunes joueurs, c'est plutôt un club qui aime bien les tauliers, les joueurs d'expérience, et l'effectif qu'ils ont en témoigne. Alors, on va me dire qu'ils ont pris Dumfries après l'Euro, mais Dumfries, c'est un joueur quand même qui avait déjà fait le tour de la question en championnat néerlandais, donc qui était prêt pour passer à un cadre supérieur dans sa carrière, et qui était d'ailleurs pisté aussi par le Bayern Munich. Mais globalement, c'est le club idéal pour Lukaku. C'est pas l'Inter, c'est plutôt un club, sans être péjoratif, un club de joueurs expérimentés,
ouais,
voire
comme
de Zeko, vieux.
Par exemple, qui va devoir
partir. Et c'est exactement ça. Et
Skriniar qui va partir aussi en défense.
Skriniar qui risque d'être la prochaine très bonne affaire de l'Inter au mercato, puisqu'on parle d'un chèque de plus de 60 millions.
Vous voulez dire un chèque du chèque ?
Voilà. Ouais. Chèque. Enfin, et rappelons que l'été dernier, l'Inter a gagné près de 200 millions d'euros de ventes entre Lukaku dans les 115 millions à Chelsea, Hakimi dans les 65 au PSG et Politano à Naples dans les 20 millions. Donc c'est un club aussi qui sait vendre, qui n'a pas perdu tellement en qualité. Alors même si ce n'est plus le style de jeu qu'avait Conte, une sorte de Catenaccio dévastateur en transition rapide. Là, on a autre chose, mais ils n'ont pas perdu tellement.
Voilà, c'est
plus agréable sans doute à regarder pour les esthètes. Et ils n'ont pas perdu en qualité, ils n'ont pas tellement perdu en résultat. Il n'y a que un petit passage à vide et des matchs en retard, parfois mal négociés, qui les ont privés du titre en vérité.
On les a vus très
contre
vite.
Contre Bologne notamment, si je me rappelle bien.
Et en Ligue des Champions, on les a vus assez proches de Liverpool.
Ouais, ils faisaient le match. Dans le jeu, ils faisaient le match. C'est-à-dire, ils n'étaient pas ridicules et ils n'étaient pas loin de pouvoir l'emporter. Donc c'est intéressant.
Matteo Cioffi, ça peut donner quoi alors pour la saison prochaine? Le retour de le Lukaku qui va être associé à nouveau avec Lautaro pour reformer la fameuse Lula, déjà?
Oui, la fameuse Lula, bien entendu. Avant, vous étiez en train de discuter du point de vue tactique. Je suis tout à fait d'accord que les trois, si Paul Dybala à son tour débarquera à l'Inter, ce sera très difficile de les faire jouer tous ensemble. Donc Inzaghi devra chaque fois, chaque match, faire un choix. Un des trois devra s'asseoir sur le banc de remplaçant. Et n'oublions pas que l'Inter, en ce moment, a besoin aussi de vendre. Donc il doit vendre... Il a trois attaquants en plus qui sont Dzeko, Sanchez et Correa, et seulement deux de ces trois-là resteront à l'Inter. Donc en ce moment, vu que l'affaire Lukaku a été réglée, il faudra penser à vendre. Et puis on retournera sur le discours de Paul Dybala qui reste encore très ouvert.
Ibrahima, ce retour à l'Inter de Lukaku, ça va faire le bonheur de la sélection belge avant la Coupe du Monde.
C'est à double tranchant. Après, ça dépend aussi surtout des performances de Lukaku.
En tout cas, il sera plus heureux, là, déjà, a priori.
Oui, mais on a vu un exemple récent qui était celui d'Antoine Griezmann, qui est parti. Les supporters lui en voulaient. Ils ont dit d'abord, il faut prouver sur le terrain pour qu'on t'adopte. Ça n'a pas très bien pris, donc ça ne fait pas forcément en ce moment le bonheur de l'équipe de France, même si c'est notre problématique. Après, c'est là que je rejoins aussi Nabil quand il dit c'est aussi à Lukaku de changer son logiciel, ce qu'il n'a pas réussi à faire à Chelsea. Là, il rentre dans un endroit où c'est quand même plus familial, où le style de jeu lui correspond le plus, où c'est aussi le club où il n'a pas d'échec. C'est ça la vérité. Il est parti à Manchester United, il avait un échec.
Il ne voulait pas quitter l'Inter.
Voilà, il ne voulait pas quitter. Chelsea, c'est deux fois quand même. Il arrive en tant que jeune joueur en disant que c'est son club de rêve, ça n'a pas marché. Il y revient en étant une superstar avec un prix conséquent, ça n'a pas marché. Là, il rentre quelque part quand même où il a connu vraiment le succès.
C'était une parenthèse désenchantée. Là, il retrouve l'Inter. Qui va peut-être devenir le club de sa vie, hein, tout simplement. Hein, Pour l'idée, c'est de s'installer. Je vous en prie, Eric.
Non, finissez la phrase.
Non, mais moi, je suis content de le revoir. Je trouve, c'est comme Drogba quand il a quitté l'OM. Il ne voulait pas quitter l'OM. Il a été à Chelsea. C'était pour des raisons financières. Ensuite, il a fait la carrière qu'on sait parce que, voilà, de toute façon, il était amené à jouer dans les plus grands clubs au monde. Moi, j'aime bien quand on respecte l'envie des joueurs. Et son envie, c'était de continuer avec l'Inter. Alors, c'est comme je vous ai dit. Après, il y a eu une opération de communication pour masquer un peu la réalité, en vous expliquant que oui, bah super.
Oui, on habille un peu la mariée.
Voilà, il a envie de réussir en Première Ligue, etc. Là, avec Lautaro Martinez, franchement, le duo, c'était ce qui est quasiment le plus impressionnant en Europe. Après, Matteo, moi, je pense, je me trompe, moi, je pense que c'est bon. Chalanoglou, à mon avis, c'est lui qui va trinquer dans cette histoire, si Dybala arrive. Mais moi, je pense que sur certains matchs, il fera jouer les trois. Hein.
Il n'est pas aussi offensif, Inzaghi. Avec Antonio Conte, une chose pareille, ça pouvait être envisageable. J'ai du mal à voir quoi. Ça serait un 3-4. 3, si on veut faire vraiment un discours du point de vue du schéma. Moi, je trouve qu'il aura pas mal de problèmes, et c'est des problèmes que les entraîneurs adorent, c'est-à-dire d'avoir plus de joueurs à disposition. Mais moi, honnêtement, j'ai du mal à voir un Dybala, Martinez, Lukaku ensemble. Puis, je sais pas, peut-être j'essaierai de mentir, je suis pas un entraîneur dans la vie, malheureusement.
Ouais. Alors, Mathéo, un autre grand joueur s'apprête apparemment à retrouver son club de cœur. C'est Paul Pogba qui est annoncé depuis un moment à la Juventus Turin, 6 ans après l'avoir quitté pour Manchester United. Là, ça brûle là, le retour de Pogba ou pas ?
Oui, Paul Pogba est attendu dans les prochains jours à Turin, car l'affaire semble réglée. Donc, comme Lukaku, c'est lui aussi qui retourne à la maison, comme les médias italiens ont souligné je ne sais pas combien de fois, et en choisissant ce club qui a toujours cru en lui. Hein. Pogba, en ce moment, a énormément besoin de se relancer après 6 ans à Manchester, où il a débarqué comme vedette pour ensuite se retrouver plus sur les bancs de remplaçants que dans le 11 titulaire. Une statistique à ce propos a montré qu'il a été titulaire dans ses 3 derniers championnats seulement le 44% des fois. Donc ça veut dire que 6 fois sur 10, c'était le bon remplaçant. Pogba est donc à la recherche de soi-même.
Ouais, il veut se relancer, Paul Pogba, c'est clair. Est-ce qu'il a, Patrick, il a raison de vouloir revenir à la Juve
là où... ça rappelle un petit peu le cas de Lukaku, puis ce sont des joueurs qui reviennent
là,
dans les clubs
qu'il
où ils ont le mieux réussi. Alors oui, pour Pogba, ça fait plus longtemps, mais quand on est Paul Pogba, qu'on a été un joueur aussi important sur les tournois, qu'on a gagné la Coupe du Monde avec son équipe nationale, qu'on a atteint le dernier carré de l'Euro, qu'on a été un joueur marquant en plus dans ces résultats exceptionnels, et qu'on a une carrière en club qui depuis 5 ou 6 ans est aussi pauvre en temps fort, je comprends qu'on ait envie de renouer un peu avec ce qui a fonctionné.
Ibrahima s'est retrouvé un petit peu, vous parliez de famille, un petit peu d'affectif, de retrouver des repères plutôt que de se remettre en danger, reprendre des risques dans un nouveau championnat, un nouveau club.
Moi, je pense déjà la problématique pour Pogba, elle est toujours la même. C'est qu'on attend un jour que Paul Pogba nous dise dans quel poste il veut évoluer concrètement.
Poste Pogba, on va l'appeler.
Voilà. Sincèrement, c'est ce qui lui a fait défaut à Manchester United. Et surtout, il y a aussi ce problème de transition entre le joueur exceptionnel, comme Patrick l'a dit, qu'on voit avec l'équipe de France.
C'est un joueur de tournoi, en fait.
Et le joueur qui nous laisse sur sa faim en club, tout simplement.
Mais à la Juventus Turin, Nabil, il a fait de grandes saisons quand même.
Et moi, je vais vous dire les choses. Je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver, la Juventus de Turin. Moi, je sais que pour le Mercato, il y avait trois possibilités en gros pour lui. Une qu'il rêvait et qui ne s'est pas présentée, qui s'appelle le Real Madrid. Une deuxième qui aurait pu se présenter et qui aurait pu l'attirer, mais je ne suis pas sûr que ça aurait pu être une bonne nouvelle pour lui, c'est le Paris Saint-Germain. Et enfin, un club où l'institution, où le club est plus fort que les joueurs, où il va pouvoir retrouver de la rigueur. La Juve, s'il faut mettre Bonucci en tribune parce qu'il n'a pas été sérieux ou je sais quoi d'autre, ils ont été capables de le faire. Donc pour eux, ça ne sera pas un problème de mettre Paul Pogba en tribune si ça ne se passe pas bien. Là, il va retrouver de la rigueur, il va retrouver un championnat qu'il connaît bien, il va retrouver un championnat qui l'a fait découvrir au monde, la Juve. Alors c'est Allegri, hein, le coach, hein, je ne dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Bon, Allegri, c'est quand même un entraîneur qui a fait des finales de Ligue des Champions, qui a gagné des titres de champion d'Italie, qui est quand même un maître tacticien.
C'est un maître tacticien, mais c'est aussi un coach qui révolutionne pas le football. Donc Pogba sait comment Allegri joue, et c'est pas Nagelsmann. Il n'y a pas une complication dans les consignes, dans l'adaptation. C'est relativement classique ce que fait Allegri. Donc je pense que pour se réadapter, ça ira plus vite que s'il arrivait sous les ordres d'un Guardiola ou d'un Nagelsmann.
Et puis surtout, c'est pas son équipe. Parce que quand il arrive à Manchester pour un salaire stratosphérique et un transfert stratosphérique, c'est pas on appelle ça en basket, si je puis me permettre cet anglicisme. Pour moi, c'est pas un franchise player. C'est-à-dire, si, il a le talent pour être un leader absolu. Mais là, aujourd'hui, le patron de la Juve, il s'appelle Vlahovic. Le projet de la Juve, c'est Vlahovic. Donc Pogba doit jouer pour Vlahovic.
Ibrahima, vous avez passé 7 saisons au Borussia Mönchengladbach. C'est plutôt rare. Enfin,
t'aurais pas un maillot
une telle longévité. Pourquoi cette fidélité, justement? Parce que quand on est bien dans un club, pourquoi en partir? Tout est bien, les supporters vous aiment, on a ses repères, on est dans sa maison, dans sa famille.
Oui, aussi. Après, je pense qu'à un moment, et là, c'est l'exemple qu'on a un peu avec tous ces joueurs-là. On a parlé de Lukaku, on parle de Pogba. C'est aussi un peu cet esprit revanchard de se dire... après, il y a l'aspect financier, évidemment, et économique. Mais c'est aussi cet aspect revanchard de se dire, c'est là que j'ai commencé, c'est là que tout a commencé pour moi. Mais je n'ai pas réussi. J'ai fait mes preuves dans un club qui est au même niveau. Maintenant, je vais repartir... dans un autre statut, je vais être le projet du club et je vais montrer de quoi je suis capable. Je pense que c'est ce qui a fait, cette ambition-là qui a fait que Pogba ou Lukaku ont voulu retourner dans le club où ils étaient.
Alors, quelle est la prochaine maison de Cristiano Ronaldo? C'est cette fois Manchester United, s'il y reste, ou alors ailleurs, pourquoi pas en Italie, à Matteo. Son nom revient avec insistance du côté de l'AS Roma, c'est bien ça?
Oui, c'est un bruit qui court, quelle personne ne croit vraiment, tout simplement parce que Ronaldo est trop cher pour la Roma, et si on lui enlève la possibilité de jouer en Ligue des Champions, c'est très dur qu'il puisse accepter cette destination romaine. Soit dit, dans un cas hypothétique, il pourrait y avoir quelques raisons qui pousseraient CR7 à accepter une expérience giallorossa. Tout d'abord, si le Portugais accepte de rentrer en Italie pour jouer, il pourra profiter des bénéfices fiscaux liés au décret de la loi qui s'appelle le décret crescita et qui permet aux étrangers de payer moins d'impôts sur leur salaire. Mais il faut faire vite car ce décret pour Ronaldo expirera le 30 juin. C'est quoi? C'est demain. Ok. Deuxième raison possible, Ronaldo rejoindrait Mourinho pour le plaisir de leur agent commun, c'est-à-dire George Mendes. Enfin, troisième raison, soyons honnêtes, autour de Ronaldo, il n'y a pas vraiment tout ce grand monde et ce grand intérêt de la part des grands clubs européens.
Patrick Juillard, il a 37 ans, Cristiano. Il a connu plusieurs championnats, l'Angleterre avec Man United à deux reprises,
mais l'Italie,
la Liga,
aussi.
Voilà déjà l'Italie avec la Juve, et puis le Real Madrid, évidemment.
Bah, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller là ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit quitter Man United ? Il doit aller où ?
C'est pas tant ce que je pourrais lui conseiller, c'est est-ce que la Roma peut se payer Cristiano Ronaldo ?
Apparemment, Matteo a dit non.
Ça me semble
mais
hautement,
à ce moment-là, mais pour lui-même.
Ça me semble hautement improbable.
Ça serait quoi le meilleur
après,
choix pour lui ?
Pour lui-même, ne pas jouer la Ligue des Champions quand on est un joueur du standing de Cristiano Ronaldo. Dans une année de Coupe du Monde.
Et Man United n'est pas qualifié.
Oui, voilà, mais ce serait plus d'aller à Chelsea, par exemple, qui me semblerait être une bonne décision de sa part. On a parlé du départ de Lukaku, il y a de la place en attaque à Chelsea. Et je pense que là, pour le coup, Nabil parlait de l'humilité nécessaire d'un attaquant qui doit s'adapter aux consignes de l'équipe où il évolue. Je pense que Cristiano Ronaldo a beaucoup de défauts, mais il est assez intelligent pour s'adapter à ce qu'on lui demande.
C'est la question.
Chose, je pense aussi que Ronaldo, c'est un joueur plus en fin de carrière que Lukaku. Il fait très bien un nombre de choses assez limité. Et Tuchel, si on lui amène Cristiano Ronaldo sur un plateau, je pense qu'il sera aussi, lui aussi, assez diplomate pour lui dire « Ok, je sais ce que tu sais faire, je ne vais pas te demander d'aller défendre à 90 mètres du but adverse ». À mon avis, Chelsea serait plus adapté. Par exemple, c'est un club qui a de l'argent, qui pourrait se le payer. Sachant que Manchester City a déjà pris Haaland et que de toute façon, à mon avis, Guardiola n'a jamais envisagé de prendre, contrairement à ce qui se disait à une époque, de prendre un Cristiano Ronaldo.
Nabil, est-ce que c'est un joueur facile à intégrer?
Non. Non, parce que moi, je sais, j'avais eu quelques échos là, cette saison. Bon, ça ne se passait pas très bien dans le vestiaire. Autour de lui, il y a une forme d'usure aussi par rapport à sa manière de jouer. En fait, comme il cannibalise à peu près tout, c'est difficile pour d'autres joueurs d'éclore, de se développer ou de voilà, eux aussi de prendre la lumière. Donc non, c'est un joueur qui est pas simple. Maintenant il est en finition tout simplement. Donc
mais il est pas fini. Ibrahima est encore costaud, comme fort quoi. 24 buts en 38 matchs cette saison. Il est sur le déclin, Cristiano.
En fait, le problème qu'on reproche à Cristiano Ronaldo, c'est d'être devenu un autre joueur que ce qu'il est et d'être devenu donc atypique. On lui reproche que l'animation offensive ou que le jeu de Manchester United n'est pas le jeu espéré parce qu'il est là, alors qu'à 37 ans, c'est le meilleur buteur de l'équipe et qu'on dit qu'un Sancho, un Rashford ou un Martial ne peuvent pas s'exprimer. Mais si on veut devenir Cristiano Ronaldo, alors peut-être qu'il faut apprendre de lui. Tout simplement. Et c'est pour ça que moi, ça m'étonne beaucoup, hein, cette rumeur de l'AS Roma. On sait que Cristiano Ronaldo, il n'a pas fait beaucoup de clubs. Donc, alors, s'il doit partir à la Roma, pourquoi il n'irait pas à Séville ?
Non, mais pour moi, il pourrait aller au Bayern si Lewandowski partait. Mais est-ce voilà. Alors après, c'est par rapport au coach. Parce que, imaginez, Lewandowski quitte le Bayern. Il y a une place à prendre. Parce que ceux qui vous disent que Mané est venu pour remplacer Lewandowski, c'est des bêtises. C'est pas du tout le même profil.
Il est venu parce que Niabri refusait de prolonger.
Mais est-ce que ce joueur-là, aujourd'hui, avec ses coachs qui sont à cheval sur le pressing à haute intensité, notamment en Allemagne, est-ce que. Cristiano Ronaldo, ça correspond aux idées de ses coachs, de Nagelsmann, de Rangnick qui est passé, de Tuchel par exemple, qui joue avec un faux neuf. Non, il en a une inadéquation. Presque, lui, ce qu'il lui faudrait, c'est une équipe comme le Milan AC cette saison, la saison dernière, c'est-à-dire à la place de Giroud, Zlatan. Là, il serait complémentaire de ce qui se fait autour de lui. C'est aussi ça, en fait. Il faut qu'il soit dans une équipe qui joue pour un attaquant qui est dans la boîte, ce qui se fait de moins en moins.
En même temps, Patrick, on l'a vu avec la sélection portugaise, là, ça semble fonctionner un peu mieux. Avec
les gars, ils n'ont pas le choix, ils ont
terminé la de Silva.
C'est un petit peu autre chose et il n'y a pas beaucoup d'attaquants très prolifiques au Portugal, d'avant-centre très prolifiques, hein, à part lui.
André Silva,
voilà, mais il n'y a pas une concurrence énorme à ce poste. Et puis, c'est différent, c'est-à-dire qu'ils ont des automatismes que n'ont pas les joueurs des clubs où il évolue, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, comme l'a dit Nabil, il cannibalise, il prend toute la lumière et tous ces jeunes joueurs qui auraient dû s'affirmer comme Sancho, Rashford, ça les a un peu inhibés, j'ai l'impression.
Mais là, dans la sélection portugaise, apparemment, il laisse un peu plus de place. Quoi.
Oui, mais c'est surtout qu'en sélection portugaise, et Cristiano Ronaldo, il est portugais. Il y a aussi ce cultissime de Cristiano Ronaldo. On est prêt, alors, des joueurs comme Bernardo Silva ou Danilo Pereira ou João Moutinho ou tout ce que vous voulez, ils sont prêts à faire plus d'efforts en sachant que, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui les fait gagner. Il n'y a personne d'autre qui fait gagner le Portugal
le seul
que
titre,
Cristiano Ronaldo.
Le seul titre, effectivement, qui a été gagné par le Portugal, c'était sous Léa Ronaldo, c'était l'Euro 2016, mais paradoxalement,
oui,
le match
fini la finale.
Du titre, il sort et il fait c'est le coach bis un peu sur le banc, ouais, mais je pense qu'ils lui en sont reconnaissants aussi, en réalité.
Oui. Non, mais il a jamais triché.
Non, il ne triche pas.
En Nations League,
mais
à Chelsea,
c'est... Je pense que...
Tu le vois, toi, à Chelsea ?
Il n'y est pas encore.
Non, il n'y est pas encore, mais je pense qu'ils ont ils ont l'argent pour le faire. Et il y a quand même une place à prendre. C'est-à-dire que ce que n'a pas réussi Tuchel avec Lukaku, peut-être qu'avec Ronaldo, il peut le réussir. Et peut-être aussi que le comportement des jeunes joueurs, des Pulisic, des joueurs comme ça autour de lui, différerait parce que c'est une star et que... Il ferait peut-être le dixième d'effort en plus qu'il ne faisait pas avec un Lukaku. Donc, il peut y avoir un effet qui transcende une équipe bien en place. Par contre, dans une équipe qui n'est pas en place, où règne un flou tactique, ce n'est pas lui qui va le résoudre. Ça, je suis d'accord. Et c'est ce qu'on a vu à United.
Ouais, juste court, la différence aussi, c'est qu'il y a Ten Hag qui est là.
Oui, c'est
qui a une idée claire qui joue avec Sébastien Haller, qui est un attaquant de boîte. Donc
c'est
peut-être
vrai,
qu'il
raison.
Peut l'intégrer dans son système et qu'il sait ce qu'il va faire de lui.
Après, c'est en termes d'image, comme l'a dit Patrick, Cristiano Ronaldo, c'est la Ligue des Champions. Voilà. Et on n'aura pas de Cristiano Ronaldo.
Ils ont recruté United pour jouer à l'air. Vous le savez.
Matteo, avant de vous dire au revoir, alors parlez-nous de ce nouveau système décidé hier par la Fédération italienne là, pour décider du vainqueur du Calcio. Si jamais il y a deux équipes ex aequo à la fin de la saison, il y aurait un match couperet ?
Oui, c'est le recours au spareggio, c'est-à-dire au match sec dans le cas où des équipes arriveraient à la fin du championnat avec le même nombre de points. Ce sera donc un match qui se disputera sur un terrain neutre. Il n'y aura pas de prolongation, mais directement on ira au tir au but. Dans l'histoire de la Serie A, un cas avec deux équipes ex aequo est arrivé une seule fois, c'était en 1964, et ce furent l'Inter et Bologne à s'affronter. Bologne avait gagné 2-0 ce temps-là. J'ajoute que s'il y aura plus de deux équipes ex aequo au classement, les deux finalistes seront choisis avec la règle des plus grands nombres de points obtenus dans les rencontres entre ces mêmes équipes concernées.
Grazie mille, Matteo Cioffi. Ça vous plaît cette...
C'est bien, ça nous évitera de départager les équipes au carton jaune, par exemple.
Je dis pas.
Ouais,
pile au face,
ouais, parce que bon.
Oui, Guinée-Mali.
Non,
oui.
Mais je trouve que c'est le terrain. Je trouve que c'est bien que ça soit le terrain qui décide que des points de règlement.
Oui, mais bah, par exemple en Liga, c'est les oppositions entre les deux, quoi, là, au golavarage particulier. Un Real-Barça, les matchs aller-retour, on voit lequel a été meilleur. Ça peut se défendre, ça aussi.
Ça peut se défendre. Après, il y a la question du calendrier, il y a la question de. L'équipe qui peut changer au mercato d'hiver, ouais. Donc on risque d'avoir deux équipes qui s'affronteront, qui n'auront pas la même physionomie qu'elles avaient en début de saison. Donc en vérité, aucun système.
Ça nous fait un peu plus de spectacle et match en jeu.
Ça fera un match, bankable pour les droits télé. Ouais. Après, aucun système n'est pleinement satisfaisant. Donc bon, pourquoi pas décider comme ça, après tout.
À appliquer dans d'autres championnats ?
Oui, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'est
bien aussi.
Et c'est intéressant d'en parler. Peut-être que ça va donner des idées, quoi, certains.
Eh ben, allez, on file maintenant aux États-Unis. La prochaine maison de Gareth Bale, ce sera sous les palmiers californiens. L'attaquant gallois s'est en effet engagé avec le Los Angeles FC pour une saison, voire plus si affinité. Bye bye donc Tottenham et l'Europe, alors qu'il va bientôt fêter ses 33 ans. Il n'y avait donc pas de club européen qui le voulait, Patrick ?
Non, mais Gareth Bale, je pense que s'il était dans une optique vraiment de continuer à performer, d'être totalement impliqué dans son... métier de footballeur, il aurait eu des offres, mais on sait qu'il y a beaucoup d'informations disant qu'il profitait bien du fait de jamais jouer au Real pour faire du golf. Tout ça. Ça n'a pas trop encouragé les très grands clubs parce qu'il est très cher en salaire, donc on y réfléchit à deux fois avant d'investir sur un joueur comme ça. Ça n'a pas trop encouragé ces clubs à investir sur lui. Et puis, il a décroché un peu le Graal qu'il recherchait depuis le début de sa carrière en se qualifiant avec son équipe nationale pour le Mondial. Donc, tout ça fait qu'il est dans une optique déjà de fin de carrière vraiment très marquée. Donc, que la MLS est davantage faites pour lui que peut-être des championnats où on demande un niveau de, d'implication et de performance qu'il n'offre plus.
Il pense déjà à l'après.
Moi, j'ai eu des échos un petit peu sur lui. Déjà, je suis pas surpris de ce choix de Los Angeles. Je sais qu'il y a 2 ou 3 ans, il avait des possibilités en Chine et avec sa femme, à l'époque j'avais des infos, ils acceptaient que Shanghai parce que le cadre de vie était hyper important pour eux. Donc, ils refusaient de prendre des sommes monstrueuses dans d'autres villes chinoises parce qu'ils estimaient que le cadre de vie, l'environnement n'était pas satisfaisant, en tout cas à leurs yeux. Il a choisi quand même d'aller à Los Angeles en divisant son salaire par je ne sais pas combien. Donc, ce n'est plus une question d'argent aussi pour lui. Récemment, on m'a dit que... Il est marrant parce qu'en fait, il est plein de désinvolture, mais ce n'est absolument pas un problème par contre dans un vestiaire. Il est apprécié par tout le monde. Récemment, on lui aurait proposé de faire des pubs pour des équipementiers et c'est lui qui dit non, c'est bon. Je veux plus. C'est-à-dire qu'en fait, il a...
Il a arrêté
en fait, il est plus là. Il est là pour sa sélection nationale, comme l'a dit.
Par contre, là, il est là.
Quel joueur.
Mais c'est pas dommage justement de le voir partir ou alors renoncer comme ça, Ibrahima.
Non, faut accepter.
Est-ce que vraiment son niveau avait baissé les
Non.
Quand il veut, il est toujours là.
Quand il veut, sur Tottenham, il l'a montré quand il avait envie. Au Real de Madrid, il avait clairement plus envie. Il se sentait pas non plus considéré. Et puis, on ne parle pas d'un joueur qui part et qui n'a pas fait grand-chose quand même. Quand Gareth Bale était, comme on dit, à son prime au Real de Madrid, c'était quand même une valeur très, très sûre du football.
Il a mis 6 ans en finale du Ligue des Champions.
Et maintenant, il veut
profiter.
C'est pas
donné à tout le monde.
Voilà, non. Il veut profiter et...
Il a coupé, quoi.
Et il faut le laisser, voilà.
Il a coupé, quoi.
Et justement, il a expliqué, le vice-président de Los Angeles va nous expliquer que Bale est vraiment très très motivé à l'idée de venir à Los Angeles. Il s'agit de John Terrington.
On ne gagne pas 5 Ligues des Champions, on n'est pas un des meilleurs joueurs dans l'histoire récente, on n'arrive pas à un tel succès si on n'a pas cette fin. On a fait de notre mieux et je suis très enthousiaste à l'idée de ce que ce changement de cadre va signifier pour Gareth Bale et sa capacité à se concentrer sur le jeu. Nous avons eu une conversation approfondie sur le thème « Qu'est-ce qu'il te faut pour réussir ?» et il a décrit l'environnement du Los Angeles Football Club sans le connaître, mais en ayant fait ses recherches. Nous avons à présent un super groupe avec de super joueurs. Je crois qu'on a fait un travail consciencieux. Il y a des coéquipiers et des membres du personnel qui le connaissent. On a eu une conversation très ouverte. On a compris très vite qu'il était la bonne personne. On est très heureux qu'il ait accepté de venir malgré la concurrence des autres clubs.
Le club du Los Angeles FC, actuel leader de la conférence Ouest, à ne pas confondre avec le Los Angeles Galaxy.
Son grand rival.
Voilà, où étaient passés Beckham et Zlatan. Los Angeles FC qui vient également de recruter Giorgio Chiellini et qui vient de prolonger le buteur mexicain Carlos Vela. Alors, la MLS avec Lorenzo Insigne, lui aussi, qui vient de la rejoindre du côté de Toronto. 31 ans pour l'ancien joueur emblématique de Naples. Il y a une nouvelle attractivité là de la MLS tout d'un coup, c'est quoi ?
Il faut un peu distinguer les deux cas parce que Bale et Chiellini, c'est des joueurs qui ont passé largement la trentaine, qui sont vraiment, sans être désobligeants,
bientôt 33 ans pour
plutôt en vraie fin de carrière. Et c'est un peu du marketing, c'est-à-dire on fait venir des stars sur le retour pour valoriser le club et montrer qu'on peut rivaliser en termes d'image avec le LA Galaxy. Et ce ne sont pas des joueurs désignés, c'est-à-dire ils font partie du salary cap, et c'est pour ça qu'on parle de sacrifice financier pour Bale, alors que Insigne, Toronto a dépensé 15 millions d'euros, ce qui est un gros transfert, et c'est un joueur qui est un joueur désigné comme les Vela, donc au LA FC. Ouais. C'est pas exactement pareil.
Mais pourquoi il y va, pourquoi il a tiré la MLS, vraiment, ça devient
Non, mais c'est aussi
quelque
un choix de vie, en fait, de mode de vie.
À 31 ans, on lâche l'Europe.
À 31 ans, il a quasiment fait toute sa carrière en Europe. Il a peut-être aussi un choix culturel. J'entendais Florian Thauvin récemment expliquer que voilà, ça permettait aussi d'élever ses enfants dans une autre culture, leur apprendre des langues, etc. Et puis... le championnat est quand même maintenant d'un bon niveau. La sélection des États-Unis, attention à la Coupe du Monde.
Oui, on l'a vu contre le Maroc en amical, ils les ont surclassés.
Voilà, et puis ensuite, ça dépend. Quand vous avez fait Naples, si derrière vous n'avez pas, pas des grands clubs, qu'est-ce que vous allez vous embêter à jouer à Cagliari ?
Un grand club espagnol, un grand club anglais.
Il n'y en a peut-être pas.
La vraie problématique, elle est là. Insigne, c'est quand même une valeur sûre de la Serie A et de Naples, une légende même liée à Naples. s'il va à Toronto, c'est qu'il n'y a rien au-dessus.
C'est fini.
De Naples.
Il suit un peu l'exemple de Jovinko avant lui, qui avait bien réussi et qui avait été élu meilleur joueur étranger de MLS.
Mais en Europe.
Après, la MLS est en train de monter en niveau parce qu'on voit qu'ils vendent de plus en plus de jeunes joueurs. Bon, le cas le plus emblématique, c'est Alphonso Davies au Bayern Munich, qui est pas loin d'être un top joueur.
Ah, hein, c'est un top joueur.
Et il y en a de plus en plus. Bon, Pulisic, enfin, il y en a d'autres. Des jeunes internationaux américains qui jouent dans des clubs de Ligue des Champions. Et les clubs qui vendent ces joueurs-là peuvent acheter, ont les moyens de se payer des Insigne à 15 millions d'euros et de lui offrir un salaire hors hiérarchie salariale. Ce qui n'est pas le cas, donc encore une fois, pour Bale. Donc tout ça, ça fait que le championnat est plus attractif. Il y a aussi la qualité de vie là-bas, bon, oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a un argument de vente.
Après, c'est pas la même à Toronto qu'à Los Angeles.
Voilà, c'est autre chose.
Toronto, c'est sympa. Hein.
Ça reste des villes quand même.
Tu étais champion NBA récemment.
Voilà, et je pense que ces joueurs qui, maintenant, quand ils arrivent en deuxième partie de carrière, ils pensent plus à leur vie de famille, à l'épanouissement des enfants. C'est aussi une manière de leur offrir autre chose. Donc,
il peut partir dans le golf aussi. Hein,
ça fait beaucoup d'arguments qui font que le championnat est intéressant.
Mais c'est quoi le niveau actuel à peu près?
Moi, on m'a dit, je me suis renseigné après, peut-être que
ça augmente vraiment.
Non, mais on m'a dit que c'était quasiment de la Ligue 1 maintenant, la MLS, avec quelques joueurs stars.
Ça progresse.
On était sur de la Ligue 2 il y a quelques années. Maintenant, on n'est pas loin d'un niveau Ligue 1. Pas les meilleurs clubs de Ligue 1. Mais
j'y étais allé en 2017 et j'avais assisté à un match entre l'Impact Montréal, qui est devenu le club de CF Montréal, et le FC Dallas. Bon, le FC Dallas avait largement gagné. Il y avait des jeunes joueurs du Panama ou des États du CONCACAF, là, de l'Amérique centrale, des bons jeunes. Et le niveau, bon, c'était du haut de tableau de Ligue 2, ce que j'avais vu. Mais je pense que ça a un petit peu augmenté. Et c'est pas un championnat bananier, entre guillemets. C'est un bon championnat. Ouais. Et il y a une certaine densité de talent maintenant dans ce championnat-là. C'est,
donc on va pas s'enterrer qu'il faut les prendre au sérieux. Là-bas, ou c'est pas
forcément. Non, il y a quand même des infrastructures de qualité. Il y a quand même une certaine intensité au
niveau
d'exigence.
Et puis, il y a un public. Aujourd'hui, la MLS est aussi populaire que le baseball sondages de popularité auprès des Américains.
Exactement.
Et chez les jeunes en particulier, comme il y a de plus en plus de... Avec l'évolution du pays, il y a de plus en plus de jeunes d'origine latine, latino-américaine. Le sport progresse aux États-Unis. Enfin, le football, c'est pas un sport mineur. C'est plus un sport. Il y a 20 ans, c'était un sport
qui
de filles.
C'est plus le soccer.
C'est plus uniquement ça, en fait.
C'est le football.
Ibrahima, il faut rechausser les crampons, là, et aller faire peut-être un petit quelque chose.
Non, mais...
ça vous aurait pas tenté, à un moment donné?
Non, j'ai jamais pensé. Mais pour revenir à ce qu'on dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est quand même... révélateur des Américains, c'est que quand c'est la compétitivité, c'est-à-dire qu'ils veulent être numéro un partout, s'ils font un championnat et qu'ils voient qu'il y a un engouement mondial, ils vont essayer que le championnat soit vraiment de haute qualité.
Et puis ils ont vendu les droits télé beaucoup plus cher.
Alors ils viennent de les vendre à Apple,
Voilà, et c'est trois fois plus que le précédent. Alors Apple, c'est un label exceptionnel, c'est les GAFA. Bon. Ça pose dans certains pays un problème de visibilité parce que quand on n'a pas un haut niveau de connexion Internet, Apple, bon, on n'a pas accès aux images.
Il faut avoir l'Apple
TV, mais je pense qu'ils peuvent revendre, c'est prévu dans les statuts, ils peuvent revendre une sous-location, revendre les droits à des chaînes de télé classiques en dur, entre guillemets, dans certains pays pour que la MLS soit diffusée. Donc, c'est plutôt du gagnant-gagnant, a priori, là aussi, comme deal. Donc.
Ben voilà pour les États-Unis. On va aller au Moyen-Orient.
C'est le big deal.
Ouais, on va aller au Moyen-Orient maintenant. Changement d'ambiance, changement de continent également pour Rudy Garcia, l'ancien entraîneur de Lyon, Lille, Marseille ou encore la Roma, va découvrir le Moyen-Orient. Il vient de s'engager, le technicien français de 58 ans, avec le club saoudien d'Al Nasser de Riyad. Un contrat de 2 ans pour un salaire annuel évalué à environ un petit peu moins de 6 millions d'euros. C'est pas mal, il remplace l'Argentin Miguel Ángel Russo. Al-Nassr qui a terminé à la troisième place du championnat saoudien la saison dernière. Elle était sans club depuis un an et son départ de Lyon, ça veut dire que personne ne voulait.
Il avait eu des touches
de Rudy.
Non,
Garcia.
Mais il a certainement eu des touches. Moi, je sais qu'à un moment il y avait des touches un petit peu en Espagne, mais ça s'est pas fait. Bon, alors c'est sûr que c'est pas l'époque où il expliquait à Jean-Caron Hierro qu'il fallait le prolonger, sinon il allait au Real. Ah, c'est pas, il n'a pas eu exactement les mêmes sollicitations. Moi, je trouve que non. Mais alors après, il y en a qui disent oui. Bon, alors c'est vrai, il a été prendre le ticket de l'Euromillion. Moi, je le comprends, voilà. Et je trouve que c'est intéressant. Comme alors, il y a l'aspect financier, il y a aucun souci là-dessus. Je pense que c'est pareil. On parlait de la MLS, mais le championnat d'Arabie Saoudite dans le golf, c'est le championnat qui est le moins faible.
C'est au-dessus du Qatar.
C'est un championnat de bonne valeur. Il y a la Ligue d'Asie des Champions qui suscite un engouement extrêmement important dans cette région du monde. Il va avoir des moyens, il va pouvoir recruter. Et puis voilà, c'est une autre expérience dans une autre. Bah, vous savez, c'est la nouvelle économie du football. Je veux dire, nous, on est européano-centrés. On pense que le football, c'est que l'Europe.
Et c'est un petit peu
il
comme
peut partir dans le golf et revenir.
Les meilleurs clubs du monde sont en Europe.
Oui, bien sûr. Mais c'est un petit peu comme les clubs de MLS. La plupart des joueurs de l'ossature sont des joueurs saoudiens, nationaux. Et il y a quelques recrues prestigieuses. Et des joueurs quand même qui sont bien connus des auditeurs de RFI. Nordine Amrabat, le Marocain, si brillant à la Coupe du Monde 2018. Ahmed Moussa, l'attaquant nigérian. Qui avait fait un doublé contre l'Argentine.
Ils sont surgissants, Conan, la Livraison.
Voilà, il y a quand même des joueurs de qualité. Il y a Abderrazak Hamdala, qui est supposément le meilleur buteur marocain en activité. Ouais. Bon, voilà, il y a un effectif taillé pour gagner la Ligue des Champions asiatiques dans cette équipe.
Je vais vous dire quelque chose, parce que j'ai fait des papiers là-dessus, parce qu'il y avait des transferts de joueurs que je connaissais, etc. Je discutais avec des agents et des intermédiaires. C'est pas du tourisme. C'est-à-dire que c'est pas, je vais me promener dans les centres commerciaux, je profite de la clim, et de temps en temps, je vais jouer au football. Il y a une pression qui est incroyable. Quand vous n'êtes pas bon, vous êtes très vite viré. Il y a des derbies avec des 50 000 personnes dans le stade entre Al-Nassr et l'équipe de Al Hilal, par exemple. Donc, c'est quand même un championnat.
Assez au-dessus du Qatar, hein, pour résumer.
C'est quand même un championnat, peut-être pas si loin que ça, du niveau du championnat turc.
Mais il rêvait de ça, j'en suis pas sûr.
Non, mais bon. L'occasion a fait le larron. Alors, moi, on m'avait dit ces dernières semaines que Al Ahly, après avoir limogé Pitsom Osimhen, avait pensé à Rudy Garcia. Il y avait eu des approches, mais je pense qu'il n'était pas intéressé par ce challenge-là. Mais et puis financièrement, là, on est dans une gamme au-dessus.
Mais ça veut dire que quoi, il est trop cher et clame trop ou c'est son caractère aussi parfois un petit peu clivant qui fait qu'en plus d'un an, personne n'en voulait.
Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question.
C'est pas compliqué. Moi, je trouve que c'est relativement simple. Rudy Garcia, il vient à l'OM parce que l'OM va mal en solution de rechange. Avant un classico, si je ne me trompe pas.
Ils ont fait 0-0 avec Hassan Adira.
Quand il vient à Lyon, il vient aussi parce que c'est pas le premier choix.
C'est Silvinho.
Voilà, c'est après l'image. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui vient et à qui on donne un projet de 3 ans et on lui dit ta carte blanche pour nous mener là. Il l'a fait à la Roma. Ça a été bien en plus.
Avec Lille, c'était pas mal quand même. Ouais.
Mais ça remonte à très longtemps alors.
À 10 ans.
À Lille, voilà.
Et avec Eden Hazard, c'est toujours plus facile. Ouais. Mais oui, allez-y. Ouais.
Mais même à Marseille, au final, il fait du bon boulot. À Lyon, c'est pas mauvais ce qu'il fait.
T'as raison,
À la Roma, c'est pas mauvais. Mais ça fait un moment que Rudy Garcia, il n'est pas le premier choix. Alors si maintenant, il y a un autre aspect qu'il faut maintenant éviter d'occulter dans le football, c'est l'aspect économique.
Mais bien sûr.
Si il travaille pas pendant un an et qu'on lui propose un très bon salaire et qu'il sait qu'il est plus le premier choix dans des clubs de premier rang, alors pourquoi ne pas le faire?
Ouais, et il peut revenir après ça, vous savez.
Revenir d'une expérience.
Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui partent dans le golf en Chine, qui reviennent et qui sont performants.
Mais pour les entraîneurs.
Qui sont hors sélection. Jardim, par exemple, était parti, il est revenu. Camboiré est parti à El Nasr, par exemple, aussi. Il est parti, il est revenu.
Et puis Laurent Blanc à Al Rayyan.
Voilà, des entraîneurs aussi sud-américains. Donc, ce n'est pas parce que vous partez quelque part que vous ne pouvez pas rester un très bon entraîneur. Genesio est parti en Chine, il est revenu à Rennes.
On reverra peut-être dans pas si longtemps que ça. Rudy Garcia en Europe, pourquoi pas ailleurs, pourquoi pas en Argentine. En tout cas, il vient dans ses valises avec apparemment Ghislain Conan, l'Ivoirien, le joueur de Reims, qu'il fait signer avec lui à Al Nassr. Voilà, merci. Bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Salerno Maestro, David Finzel, merci beaucoup. Merci à tous, bonne soirée.